les podcasts de Radio Vatican.
Il y a 100 ans, le 7 novembre 1917 en Russie, la prise du palais d'hiver et le renversement du gouvernement provisoire mis en place après la chute du tsarisme consacraient la victoire de la révolution bolchevique. La première république soviétique socialiste, qui fut ensuite péniblement instaurée, démontra très rapidement une haine antireligieuse implacable, surtout à l'égard de l'église orthodoxe. Une église perçue comme une des principales alliées du pouvoir tsariste Oni et donc comme un ennemi à abattre. Une terrible répression se mit alors en place. Le pouvoir communiste n'aura de cesse de vouloir purger la nation russe d'une foi pourtant constitutive de son identité. Il se jura d'éradiquer la religion en Russie et lui voit pour cela une guerre sans merci. Les biens du clergé furent d'abord saisis, les églises furent ensuite démolies, les monastères brûlés, les icônes et les reliques détruites, tandis qu'une active propagande s'attachait à extirper le moindre sentiment religieux et de lui substituer l'athéisme prôné par le marxisme-léninisme. Dans le collimateur de cette persécution féroce et soigneusement planifiés, les simples croyants et surtout les évêques, les prêtres et religieux qui furent arrêtés et déportés quand ils ne furent pas exécutés. Ce long et douloureux calvaire des chrétiens russes, orthodoxes et catholiques, demeura longtemps inconnu. Nous vous proposons l'éclairage de Bernard Lecomte, journaliste et écrivain, auteur d'un récent ouvrage publié aux éditions First, « L'histoire du communisme pour les nuls ».
Quand on regarde l'histoire, on est forcé à constater que le marxisme, au fond, n'a pas inventé grand-chose. Tout temps, les hommes ont voulu, avec plus ou moins de violence, établir une meilleure justice sociale. Ça a toujours été, on sait bien que le christianisme a eu cette volonté-là, mais les Grecs, avant, le christianisme avait déjà inventé des formules. Et après, on sait bien que toute l'aventure marxiste est née de la révolution industrielle, parce que la révolution industrielle a changé les conditions sociales dans le monde. Dans les premiers pays industrialisés, c'est-à-dire d'abord l'Angleterre, et puis ensuite l'Allemagne, et puis la France, cette exigence de justice sociale, qui est de tout temps, s'est exprimée de façon nouvelle, parce qu'il y avait une nouvelle catégorie sociale, alors les marxistes ont dit une classe sociale, qui était la classe ouvrière. Cette classe ouvrière qui, il faut le dire, il faut le répéter, au XIXe siècle, a été terriblement exploitée. Le travail des enfants, le travail des femmes, les conditions de vie des ouvriers de l'époque étaient en effet tout à fait insupportables. D'ailleurs, il n'y a pas eu que les marxistes pour le déplorer. Rappelons-nous que dans l'histoire de l'Église, au XIXe siècle, un certain nombre de grands noms de l'histoire de l'Église, je pense notamment à Frédéric Ozanam, ont été les pionniers, les défenseurs de cette de justice sociale propre à l'industrialisation. Mais le marxisme a été probablement la façon la plus spectaculaire, la plus violente aussi, la plus grande, la plus politique probablement, de cette exigence, cette espèce de messianisme terrestre qui disait, eh bien, après la révolution, le peuple sera heureux. Les marxistes n'ont pas inventé cette idée-là.
Marx nous dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Pourquoi cette hostilité par rapport aux faits religieux, à la religion et particulièrement envers les chrétiens?
Si le marxisme s'en est pris à ce point à la religion, c'est pour deux raisons. C'est pour une raison philosophique, d'abord, parce que, ne l'oublions pas, Karl Marx, il a très peu fait de révolution. C'était d'abord un philosophe émigré qui allait de ville en ville, de Cologne à Francfort, à Paris, à Londres, en écrivant des articles. Et ces articles portaient sur une avancée de la philosophie matérialiste qui était, disons, le matérialisme historique, pour aller vite, et qui excluait la religion. Pour cette philosophie, la religion était cette espèce de superstructure qui a été appelée l'opium du peuple. Et donc les marxistes étaient rigoureusement contre la religion, d'abord pour des raisons philosophiques. Ensuite, pour des raisons politiques et sociales, la plupart du temps, les marxistes ou les communistes accuseront les diverses églises, pas seulement les catholiques français au XIXe siècle, mais par exemple les orthodoxes russes, ensuite, d'être aux côtés des puissants, aux côtés de ceux qui exploitent les travailleurs. Et cet amalgame va causé énormément de violence et de pertes chez les églises. Je pense surtout à l'église orthodoxe russe qui va, après la révolution de 17, souffrir un véritable martyre dans les années suivantes.
Alors, à peine arrivés au pouvoir en novembre 1917, les bolcheviks décident de saisir, de s'emparer des biens de l'église orthodoxe parce qu'il faut renflouer les caisses de l'État qui sont vides, tout simplement. Est-ce que cette répression donc, qui s'abat sur l'église, sur les chrétiens, n'obéit pas, dans un premier temps du moins, à de simples motifs économiques ?
Je crois qu'on ne peut pas tout à fait dire ça, parce que oui, bien sûr, pour payer les révolutionnaires, pour payer les nouvelles institutions, les administrations nouvelles, Lénine, Trotsky et les bolcheviks vont faire une razzia, notamment dans les églises, les monastères et les couvents. À chaque fois qu'ils vont trouver de l'or, ils vont évidemment s'en servir pour leur production à eux, pour leur économie à eux. Mais bien au-delà, il faut quand même se rappeler que pour Lénine et pour les bolcheviks, la religion, c'est un ennemi de classe. C'est-à-dire que même si l'Église n'avait pas été riche, l'Église aurait dû être éradiquée, extirpée de la société russe. L'Église était, du point de vue marxiste, du côté des puissants, du côté des tsars, et il est vrai d'ailleurs que le patriarcat de Moscou était en effet très inféodé aux tsars. Mais pour Lénine, c'était un allié objectif, comme il disait, et il fallait impérativement supprimer purement et simplement la religion de la société russe à l'époque.
Alors, quand les bolcheviks saisissent les biens du clergé orthodoxe, quelle est la réaction des simples croyants russes ?
C'est toujours difficile à dire parce que la Russie, rappelez-vous, c'est un pays de 10 000 km de long et les croyants russes sont disséminés dans un immense territoire et un certain nombre n'apprendront la révolution que quelques semaines plus tard. Simplement, le paysan russe, le croyant de base, si j'ose dire, il n'a pas un immense respect pour ses évêques ou pour le patriarcat de Moscou, parce qu'il les a toujours considérés un peu, lui aussi, comme, après tout, proche du pouvoir et roulant carrosse. Donc il va falloir un certain temps après la Révolution pour que les paroisses orthodoxes, celles qui sont au fin fond de la toundra, de la forêt russe, que ces paroisses et que ces communes paysannes comprennent que la révolution bolchévique, c'est en effet un danger mortel pour la religion. Ça n'est pas seulement le fait de renverser le pouvoir. Le paysan russe, lui, renverser le pouvoir, ça l'intéressait pas beaucoup, c'était pas son problème. Mais quand il a vu arriver les émissaires du parti bolchévique pour brûler les églises, vider les couvents et incendier les monastères, là, le paysan russe a compris qu'il avait changé d'époque.
Alors, on parle essentiellement de l'église orthodoxe russe, mais qu'en est-il des catholiques ? Quelle a été leur réaction dans un premier temps ? Et surtout, comment ont-ils été traités par le pouvoir bolchévique ?
Dans un tout premier temps, il faut bien dire les choses, l'église catholique n'était pas très solidaire avec les chrétiens orthodoxes. L'église catholique avait souffert avant la Révolution, du fait que le tsar et l'État de l'Empire russe avaient le monopole de la religion et le patriarcat de Moscou exerçait un véritable monopole sur tout le pays. Or, la Russie était un immense pays qui comptait beaucoup de catholiques. Sur toute sa partie occidentale, il y avait des catholiques de rite byzantin, les biélorusses, les ukrainiens, et puis il y avait des catholiques de rite latin, les polonais, les allemands, qui étaient très nombreux. Et tous ces catholiques ont vu arriver la chute du tsar avec plutôt de la satisfaction. Il faut bien dire les choses, quand on refait cette histoire, on peut même retrouver un certain nombre d'attitudes de proches du pape de l'époque pour se réjouir de l'abdication du tsar en espérant que ça allait donner plus de liberté aux catholiques. Alors, tous ces espoirs, entretenu d'ailleurs par le pape Benoît XV lui-même, tous ses espoirs vont vite se fracasser sur les réalités après la révolution bolchévique, c'est-à-dire après octobre 1917. Très vite, les catholiques comprennent qu'en réalité, on est devant une opération d'éradication totale de toutes les religions et que les catholiques ne vont pas tirer leur épingle du jeu, loin de là.
Alors comment les chrétiens catholiques et orthodoxes, notamment, comment les simples croyants Arrive-t-il à garder cette foi vivante et comment arrive-t-il à la pratiquer vu cette opération d'éradication de la religion qu'ont entreprise les bolcheviks?
Ça, c'est le long mystère, j'allais dire le long miracle de la foi populaire qui, malgré les épreuves, malgré les massacres, malgré les menaces, survit à tout, au fond. Quand vont arriver, un peu plus tard, les procès de Moscou, le stalinisme, le goulag, cette période épouvantable, la religion aura officiellement été éradiquée. Les bolcheviks, enfin les staliniens à ce moment-là, vont dire c'est fini, la religion c'est terminé, etc. Or, dans cet immense pays, entièrement quadrillé par la police politique de l'époque, qui s'appelle la Tchéka, puis qui ensuite va s'appeler la GPU, dans cet immense territoire, les familles, les villages, les prêtres de l'ombre, les paysans eux-mêmes vont entretenir la religion parce que tout simplement c'est leur foi, c'est leur vie. Et on sait bien que dans beaucoup de villages, voire de kolkhozes, on va trouver des gens qui secrètement vont avoir une petite icône dans un coin. Vous savez, comme c'est le propre de la religion orthodoxe d'avoir dans un coin qu'on appelle Krasny Ugol en russe, vous avez cette petite icône cachée, c'est là-dessus qu'on va prier le soir avant de se coucher, par exemple, avec une petite bougie malheureuse. Et ces petits gestes-là, ces petites cachotteries, ces petits secrets vont permettre à la religion de se transmettre malgré tout d'une génération à l'autre. Alors, ne rêvons pas, au moment où Staline est le plus fort dans l'histoire, la religion orthodoxe, elle est en effet presque éradiquée. Mais elle survit grâce à ça, à ces actes courageux, à ces familles qui, loin dans la forêt, vont entretenir la foi et malgré tout la transmettre.
Alors l'Église orthodoxe russe aujourd'hui, comment est-ce qu'elle appréhende ces événements de 1917? Comment est-ce qu'elle aborde cette commémoration, si commémoration il y a? Puisque je vois qu'en décembre, le patriarche Kirill a invité le patriarche de Constantinople Bartholomée à commémorer ensemble les martyrs du communisme. Quel regard cette Église porte-t-elle aujourd'hui sur cette révolution?
L'Église orthodoxe russe a en vue évidemment les martyrs de cette époque. Les martyrs, ça restera, quoi qu'il arrive, des milliers et des milliers de gens ont été tués, assassinés pour leur foi. Et c'est ça la définition du martyr. Il y a les martyrs anonymes, les très nombreux russes qui à l'époque ont été tout simplement assassinés pour leur foi. Il y a les prêtres de ce temps-là. Et puis il y a des martyrs un peu particuliers qui font aujourd'hui en Russie l'objet d'une vénération un peu particulière, c'est la famille du tsar elle-même, c'est-à-dire le tsar lui-même, son épouse Alexandra, ses quatre filles, son fils, et autour de la famille, les grands-ducs ou archiduchesses qui ont été assassinés à ce moment-là. Rappelez-vous le massacre épouvantable du mois de juillet 1918 qui a valu à toute cette famille, en effet, d'être assassinée de la façon la plus abjecte et la plus sordide qui soit. Ce souvenir-là est resté dans la conscience russe. Le patriarcat de Moscou lui-même célébrera en effet ces martyrs-là. Mais il s'agit bien des martyrs de la Révolution. Il ne s'agit pas d'autre chose, parce qu'après tout, le patriarcat de Moscou, qui va renaître de ses cendres dans des conditions difficiles, voire discutables après la guerre, est resté et restera encore une église assez proche du pouvoir politique. On sait bien aujourd'hui que le patriarcat de Moscou est très proche du gouvernement de M. Poutine. Et c'est un peu sa tradition, pas toujours comprise par les catholiques, mais c'est incontestablement une donnée de cette église.
Est-ce que vous pourriez nous partager une histoire, une anecdote, ou nous parler tout simplement d'une figure qui, pour vous, symbolise et illustre cette période tragique?
Moi, j'ai un souvenir personnel plutôt rigolo, si vous me le permettez. J'étais journaliste à l'Express à l'époque, lorsque Mikhail Gorbatchev est venu pour la première fois en France. Et il y a eu une conférence de presse à laquelle j'assistais, et je me suis levé, c'était à l'Élysée, et j'ai demandé à Mikhail Gorbatchev s'il avait été baptisé, sachant que les autres patrons du Parti communiste soviétique, étant nés avant 1917, avaient presque tous été baptisés. Et je voulais savoir si Gorbatchev l'avait été. Et la réponse a été extrêmement intéressante, parce que Gorbatchev a dit « Oui, j'ai été baptisé ». Alors rappelons-nous que c'était en pleine période stalinienne, dans les années 30, où Gorbatchev nous a dit qu'il avait été baptisé par une grand-mère Donc, vous voyez, la transmission, à l'époque, ça passait par les grands-mères qui, clandestinement, est allée baptiser Gorbatchev, le petit Mikhail Sergeïevitch, auprès d'un pope quelconque dans un village, en prenant tous les risques. Et Gorbatchev rappelle que, chez cette grand-mère, il y avait une icône de la Vierge, mais que cette icône, bien sûr, était recouverte d'un portrait de Lénine pour troubler la police, pour échapper à toutes les polices et à toutes les répressions.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.